sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Barthas, il est midi et des poussières en sud Lozère, l'heure d'un petit moment radiophonique consacré aux événements qui se déroulent par ici. Et aujourd'hui, on va vous parler du Gestival, le festival de conférences gesticulées de Florac, qui va se dérouler la semaine prochaine, du lundi 27 avril au dimanche 3 mai. C'est Stéphanie Rieux qui l'organise, et si vous ne savez pas encore ce qu'est une conférence gesticulée, si vous voulez savoir comment elle s'y est intéressée, si vous voulez connaître le programme de cette 5e édition du Gestival, eh bien je vous propose de l'écouter. Elle est passée la semaine dernière par les studios de Radio Barthas pour tout nous expliquer.
Midi et des poussières.
Bonjour Stéphanie Rieux.
Bonjour.
Bienvenue à Radio Barthas. Alors est-ce que pour commencer tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est une conférence gesticulée pour les novices dont je dois admettre que je fais un peu partie, les novices qui ne connaissent pas très bien.
Alors une conférence gesticulée c'est avant tout un objet politique. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait une conférence et c'est pas tout à fait non plus un spectacle, c'est un mélange des deux. C'est une personne qui vient à partir d'un récit de vie nous expliquer ce qu'elle a compris du monde dans lequel on vit et des systèmes qui nous oppressent en gros. C'est un mélange entre du savoir chaud, c'est-à-dire du savoir d'expérience, et du savoir froid, c'est-à-dire du savoir plus académique, qui vient donner à voir un peu quelle place on a dans le système et comment, selon la place qu'on a, on est plus ou moins traversé par des systèmes qui nous oppriment. Voilà.
Et c'est très lié à ce qu'on appelle l'éducation populaire,
ouais,
c'est ça ?
L'éducation populaire qui est de l'éducation politique en vrai, qui est faire en sorte que les gens, collectivement, ils partagent leurs histoires et ils se rendent compte qu'on vit grosso modo tous un peu les mêmes choses et comment on peut lutter collectivement pour s'émanciper.
Donc une conférence gesticulée, elle sera forcément politique, elle sera forcément militante.
Oui, normalement oui, c'est dans les règles.
Et il y a quand même aussi quelque chose d'assez théâtral parce que du coup on est seul devant un public, donc on les écrit à l'avance, c'est pas improvisé, donc c'est travaillé, il y a une forme de mise en scène.
Ouais, alors c'est un vrai travail. Une conférence gesticulée, ça se construit dans une formation qui dure 4 semaines environ, réparties sur 5 à 6 mois. Et c'est un vrai travail de recherche en vrai, parce que c'est ton histoire que tu viens socialiser. Donc ça te demande d'aller chercher de la connaissance dans des domaines comme la sociologie, la politique, l'histoire, l'économie. Enfin, ça dépend de ton sujet, mais en fait, tu peux aller chercher tout un tas de savoirs partout. Donc c'est un vrai travail de recherche. Ça ne s'écrit pas normalement. L'idée, c'est de vraiment pouvoir prendre la parole publiquement, mettre au travail des choses que tu es habitué à raconter, des anecdotes de ta vie, les mettre au travail dans un groupe de formation et construire autour de ça du savoir politique que tu viens, que tu peaufines en fait. Mais normalement, tu n'écris pas. Alors, tu as une espèce de guide avec des mots-clés, mais normalement, ce n'est pas quelque chose d'écrit. Donc, c'est un objet qui peut bouger aussi. Entre le moment où on l'a fait pour la première fois devant des gens, ça fait partie intégrante de la formation, et la suite, elle bouge tout le temps, les conférences gesticulées, c'est jamais les mêmes. Enfin, c'est jamais les mêmes. Ça parle de la même chose, mais il y a plein de... Ça peut évoluer selon l'histoire, selon le moment, enfin voilà.
Et je faisais le lien avec le théâtre parce que du coup je me suis quand même un peu renseignée pour préparer notre entretien. Donc si on refait un peu l'historique des conférences gesticulées, c'est Franck Lepage qui était un militant de l'éducation populaire qui un jour il intervenait dans un colloque et un homme est venu le voir. Cet homme c'était André Benedetto qui est le fondateur du festival OFF de Avignon. Et il est venu le voir et il lui aurait dit que son intervention dans ce colloque, elle était que lui c'était un homme de théâtre et qu'en fait au lieu d'intervenir dans des colloques, il devrait monter sur une scène. Et d'ailleurs il lui a ouvert son théâtre, le Théâtre des Carmes à Avignon, et c'est là que Franck Lepage a fait sa première conférence gesticulée.
Oui, alors en fait la forme théâtrale c'est aussi parce que la forme et populaire. La forme d'une conférence gesticulée, c'est quelque chose qui se veut populaire. Donc on emprunte quand même certains codes du théâtre. qui rendent la chose... Parce que souvent, c'est du savoir qui est quand même dense, mais c'est une manière de le faire circuler aussi qui est plus souple, en fait, le fait d'avoir des codes du théâtre. Et effectivement, Franck... Alors, il n'était pas tout seul, Franck, quand il a créé les conférences gesticulées. Il travaillait dans une scope qui s'appelait Le Pavé. Et effectivement, c'est à partir d'Avignon qu'il a pu tester cette forme-là, qu'il a appelée conférence gesticulée, parce qu'au départ, c'était une blague, en fait. Parce qu'il ne savait pas trop comment appeler ça. Ce n'était pas du conte, ce n'était pas du théâtre, ce n'était pas... Enfin, voilà.
Oui, coup, d'ailleurs, gesticuler, j'ai regardé dans le dictionnaire, la définition, c'est faire beaucoup de gestes, trop de gestes, agir de manière trop démonstrative. Il y a presque une connotation péjorative à ce mot, en fait.
Oui, en fait, ce qu'il raconte, Franck, souvent, c'est qu'il a appelé ça comme ça parce qu'au moins, il était sûr que la droite ne pourrait pas nous piquer le concept parce que ça avait l'air tellement ridicule que ça allait pas être récupéré.
C'est une bonne stratégie, mais, ça.
Voilà. Nous, ce qu'on appelle la gesticulation, c'est le mouvement qui nous fait passer de notre histoire individuelle à une histoire collective, en fait. C'est ce truc-là. C'est la politisation.
Je vais juste te faire écouter justement Franck Lepage dont on parlait, parce que j'aimerais bien avoir ta réaction à ses propos.
Une personne arrive à un moment de sa vie où soit elle fait un cancer, soit elle fait une conférence gesticulée. C'est-à-dire soit elle arrive, cette personne, à transformer toutes les contradictions qui font qu'elle arrive en burn-out, qu'elle arrive à ne plus trouver de sens dans ce qu'elle fait professionnellement, d'accord ? Elle en fait quelque chose, c'est-à-dire elle en fait un objet politique, public, partageable. Et elle le met sur une scène en disant « voilà ce problème ». Soit elle fait ça, soit elle souffre toute seule dans son coin, elle déprime, elle se suicide, elle prend du Prozac, d'accord ? À conférence gesticulée, c'est pas un spectacle de théâtre au sens où un artiste écrirait, je sais pas quoi. C'est le moment où une personne arrive à un carrefour dans sa vie où il devient absolument... fondamentale, nécessaire, qu'elle transmette ce qu'elle a compris, de ce qu'elle a subi, de ce qu'elle a vécu et de ce qu'on lui fait faire.
Voilà, donc c'était Franck Lepage dans un entretien à France 3 Val-de-Loire en janvier 2021. Alors Stéphanie Rieux, est-ce que c'est ce qui t'est arrivé à toi d'en arriver à ce stade de burn-out et de détresse que du coup tu as transformé ça ou tu es tombée dans la conférence gesticulée ?
Oui, alors... c'est vrai que 80% des gesticulants, des gesticulantes, ils ont soit fait un burn-out, soit... Enfin, voilà, on a tous un truc. En fait, nous, on vient raconter comment on s'est pris les pieds dans le tapis, en fait. On vient pas raconter comment c'était merveilleux qu'on a réussi. Mais oui, alors moi, j'ai fait un burn-out, effectivement, mais c'est pas ça qui m'a donné l'élan pour aller vraiment m'y coller. C'est que, en fait... moi, le travail du pavé et des conférences gesticulées, je connaissais ça depuis 2006-2007, là, quand ça a commencé à un peu tourner. Par hasard, hein, j'ai rencontré ça. Et c'est surtout qu'à l'époque, j'étais éduc et que quand ça devenait un peu...
Éducatrice spécialisée.
Ouais, enfin, monitrice éducatrice, mais je bossais dans le milieu éducatif. Et quand ça devenait compliqué, parce que c'est des métiers difficiles et que les systèmes, ils sont pas très simples, enfin, ils sont pas forcément adaptés pour qu'on puisse faire notre métier correctement, c'est ce que je raconte dans ma conf, je me passais les conf gesticulées et j'avais l'impression de me retrouver à la maison, c'est-à-dire que politiquement, je sentais que c'était là où j'étais, c'est-à-dire dans cette revendication d'analyser un système et de pouvoir le transformer et de m'émanciper des oppressions, pour le dire comme ça. Je ne le disais pas comme ça à l'époque. Et en fait, c'est au moment du Covid, c'est en 2020, donc très longtemps après, hein, parce que moi je regardais ça, mais je me disais, non, moi je ne vais pas faire ça, enfin, je n'avais pas l'idée de faire ça.
T'en étais une spectatrice, en
oui,
fait.
Oui, j'étais plutôt une spectatrice, j'étais une alliée politique, j'étais très... Enfin voilà, je me reconnaissais dans le discours politique, mais... au moment du confinement et tout ça en 2020, en fait, il y a eu un moment où j'en ai eu marre qu'on nous parle mal et qu'on s'adresse mal à nous et qu'on nous traite mal. Et ma colère, elle a pris le dessus. En fait, c'est plutôt la colère qui m'a poussée à dire, en fait, faut que je fasse un truc, quoi. Faut que je me sorte de ça. Faut que je résiste à quelque chose. Je me sentais tellement, et pas que moi, j'imagine, tellement empêchée à ce moment-là que c'est venu me donner cet élan-là de dire, en fait, il faut que j'ouvre ma gueule, quoi. Et voilà. Et du coup, j'ai écrit à l'Ardeur, donc l'association qui m'a formée à la conférence gesticulée. Voilà, j'ai passé un petit entretien par téléphone. Ils m'ont dit, oui, t'as plein de trucs à dire, c'est intéressant. Et du coup, j'ai fini ma formation en novembre 2021, je crois. Voilà.
Et ton objectif à toi, du coup, c'était de transmettre ton expérience. On sent qu'il y a un côté un peu aussi exutoire, réparation pour soi. Et dans l'adresse à l'autre, en fait, qu'est-ce qui importe, qu'est-ce qui compte ?
En fait, moi, Le côté réparateur, je ne l'ai pas vu tout de suite. C'est-à-dire qu'il est là de fait, mais ce n'est pas ça qu'on travaille hein, en formation en gesticulée. En fait, ce qu'on vient faire, c'est mobiliser collectivement. C'est dire aux gens, c'est faire monter la conscience politique globale. C'est dire, en fait, moi, ce qui m'est arrivé, c'est pas parce que je vaux pas le coup, c'est pas parce que je suis nulle. J'ai fait un burn-out. Bon, enfin, moi, j'en parle un tout petit peu de ça dans ma conf, mais c'est pas ça que je raconte en priorité. Moi, je raconte comment on a marchandisé le travail social, comment les normes, les procédures, les démarches qualité, ça vient de démonter les métiers. Comment ça sert au capitalisme, en fait, qu'il n'y ait plus de collectif autour du travail et des métiers. Et voilà, je raconte tout ça. Le burn-out, il fait partie de mon histoire, mais ce n'est pas le centre de la conf. L'idée, c'est de venir dire aux gens, mais moi, ce qui m'est arrivé, ce n'est pas parce que je suis une personne fragile, ce n'est pas parce que je suis une personne qui n'aime pas aller au travail. Moi, j'ai un rapport quasi amoureux au travail. C'est vraiment... Enfin, moi, je suis arrivée dans le travail de manière très politique, en fait, sans le savoir, mais de manière très politique. Ce qui m'est arrivé, ça arrive à plein de gens. Il y a 60% de gens qui galèrent au travail, qui ne se retrouvent plus du tout dans leur métier, à qui on demande de faire des trucs qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils ont appris à faire et ce pourquoi ils sont faits et ce qu'ils savent faire. L'idée, c'est de dire on n'est pas des nuls, on n'est pas des ratés. Juste, on ne correspond pas à ce que le système politique et le système économique attendent de nous. C'est des systèmes qui nous oppriment. C'est pas nous le problème, en fait, c'est le système. Donc, si on est plein, comment on fait pour se regrouper et changer tout ça? C'est vraiment un mouvement d'émancipation et de transformation sociale, en fait.
Alors, rentrons un peu dans le programme du festival qui va commencer donc le 27 avril et qui va durer jusqu'au 3 mai. Déjà, cette année, c'est les 5 ans.
Ouais.
Et donc, est-ce qu'il y a un programme un peu spécial pour cet anniversaire?
Alors, il y a un programme un peu spécial dans le sens où déjà, on l'a décalé d'une semaine et que du coup, il y a le 1er mai qui rentre dans la semaine et qu'on va en profiter pour faire une journée spéciale fête des travailleurs et des travailleuses.
Grande fête populaire, le 1er mai.
Bah oui, et puis voilà, on s'est dit que c'était l'occasion. D'habitude, ça se passe à l'Encrier. Ça commence à être un peu petit l'Encrier. Il y a des confs où des fois on est 80 et en fait.
Victime de votre succès.
Ouais, et puis voilà, l'espace commence à être un peu petit. Donc ça faisait un petit moment que je me disais quand même, il faudrait peut-être trouver un lieu alternatif, même si pour moi l'Encrier, clairement, c'est l'endroit qui est idéal pour ça parce que c'est vraiment un espace politique et que du coup ça permet d'organiser des choses comme ça. Mais du coup, cette année, on s'est dit que on aurait bien fait un peu aussi des ateliers un peu plus ouverts au public, qu'on aurait bien fait un peu de grignote, un peu de buvette, un peu de une fête aussi le 1er mai. Et du coup, on a cherché notre salle là et on se retrouve au VVF. Voilà.
Et donc, il y aura 5 conférences cette année. Est-ce que tu peux nous en présenter peut-être pas toutes, mais une ou deux, ou toutes si tu as envie?
Il y a plusieurs trucs. C'est qu'il y a des conférences gesticulées, il y a aussi des ateliers. Et moi, je trouve que c'est... En fait, la conférence gesticulée, à la base, ça ne se produisait pas s'il n'y avait pas un atelier derrière. Et moi, je trouve que ça se fait plus trop maintenant. Enfin, en tout cas, on n'est plus très nombreux à porter ça. Mais moi, je trouve que ça prend vraiment du sens quand derrière, tu peux travailler avec les gens aussi sur les thématiques que tu as abordées. Donc là, on a essayé de remettre de l'atelier d'éducation populaire.
Voilà, justement, c'est pas juste un spectacle, on regarde la conférence et on s'en va. C'est après, on reste ensemble et on travaille.
La thématique, parce que... Alors, ça peut être ça. On peut aussi se dire, OK, je regarde ça. Et ce que ça vient nous faire, ce que ça vient mobiliser chez nous, ce que ça vient mettre à jour, et on peut le travailler ailleurs tout seul. On peut prendre le temps de le digérer, c'est pas un souci. Mais quand il y a un atelier, ça permet aussi à des gens, collectivement... peut-être de trouver des pistes de résolution. Enfin voilà, ça peut être un super...
Déclencheur de quelque chose.
Voilà. Du coup, je ne sais pas quelle conf présenter. Moi, je les aime toutes. Alors, la spécificité cette année, c'est que c'est beaucoup des conférences gesticulées qu'on a accompagnées en tant que formateur et formatrice l'année dernière avec mon collègue Arnaud, qui vient tous les ans pour faire la formation anecdote gesticulée avec moi. On a accompagné 5
conférences. Dont on va parler juste après, cette formation.
Ouais. On a accompagné 5 conférences gesticulées l'année dernière. On a monté une vraie formation. Et du coup, il y a 3 de ces confs-là qui seront là. Donc le 28 avril, le 29 et le 30. Voilà. Donc on est hyper fiers parce que on a formé des gens et c'était un vrai défi, quoi, parce que c'est assez engageant. Enfin voilà, c'est un vrai métier aussi de faire ça, quoi. Du coup, c'est chouette qu'on soit allé au bout de ça. Donc ils viennent jouer là. Et le lundi soir, le 27 avril, on ouvre. Alors c'est C'est une conférence gesticulée collective à laquelle je participe. Donc, on est 3 femmes à venir parler du travail. On est déjà 3 gesticulantes à avoir une conf chacune autour du travail. Et on s'est réunies toutes les 3 pour en construire une deuxième.
Et c'est sur le travail social ou c'est sur plus
non,
général ?
Non, c'est plus général. C'est comment le néolibéralisme nous oblige petit à petit à accepter l'idée que le travail peut ne rien coûter. En agitant d'une part la figure du chômeur fainéant, qu'on doit faire travailler gratuitement en échange d'une allocation, qui n'est plus un droit de fait, et en valorisant, en survalorisant le bénévolat citoyen. Donc ceux qui ont droit de travailler gratuitement et que ça valorise, et ceux qu'on oblige à travailler gratuitement parce que ils doivent quelque chose à la société, entre guillemets. Donc on vient raconter ça à travers nos 3 parcours. C'est vachement axé travail cette année, mais on n'a pas fait vraiment exprès. C'est travail et féminisme, on n'a pas fait exprès, ça s'est fait comme ça.
Voilà, en même temps, c'est bien avec le 1er mai au milieu, oui. C'est cohérent.
Moi, je trouvais ça cohérent finalement. Et le lendemain, le mardi 28 avril à 16h, on anime un atelier du coup dans la suite de cette conférence gesticulée-là qui s'appelle « Étoile, travail, ça te fait quoi ?» Et c'est... alors, faut venir parce que c'est vraiment tout le temps chouette, ces ateliers-là. Et c'est facile, en fait. C'est... on vient se raconter. On vient raconter des moments de notre vie autour du travail. L'image que le travail, ça avait pour nous quand on était petite, comment les parents... Quelle place ça avait dans la famille, voilà. Et on construit collectivement on se raconte plein d'histoires qui viennent construire un peu, pareil, un paysage politique dans lequel on se retrouve. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en fait ? Et c'est toujours très chouette. Et voilà, donc ça, c'est le lendemain après-midi.
Et après, justement, sur donc il y a cette fameuse formation anecdote. Donc ça, ce sera les 2 et 3 mai.
Ouais,
et ça se passe au foyer rural.
Ça se passe au foyer rural. C'est la 5e. Alors par contre, cette année, on a 0 inscrit. Donc là, c'est un peu un appel parce que si vous avez envie de venir voir des anecdotes gesticulées et qu'on n'a pas d'inscrit, on va l'annuler. Mais du coup, s'il y a des gens qui ont envie de s'essayer à l'exercice,
Parce que l'idée, c'est ça, c'est d'apprendre à s'initier à la conférence gesticulée et de faire une mini-conférence, ouais. C'est-à-dire quelque chose qui durera entre 10 et 15 minutes peu près, c'est ça. Ouais.
En fait, c'est vraiment l'outil de base de la conférence gesticulée. En fait, c'est vraiment... dans la conf, il y a ce qu'on appelle des anecdotes. Et du coup, là, c'est vraiment... Le travail, c'est vraiment de trouver une anecdote et de venir la politiser. Alors, on n'est pas obligé d'avoir forcément... de savoir forcément de quoi on va parler, parce que ça se construit dans le groupe pendant les 2 jours. C'est vraiment... à chaque fois, nous, on est là, mais c'est fou. En un jour et demi, les gens, ils sont sur scène à 16h le dimanche et c'est toujours super, en fait.
Voilà, parce qu'à l'issue, du coup, de cette formation, il y a une représentation en public, donc ouais. Le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 3 mai.
À 16h. S'il y a des inscrits, mais là, nous n'avons pas d'inscrits, c'est-à-dire que...
Mais peut-être que cette émission de radio va tout révolutionner et que tu vas crouler sous les demandes d'inscription.
Alors, c'est limité à 8 places quand même. Hein, donc.
Au moins 8. d'ailleurs, on donne les infos. Donc, pour s'inscrire, c'est soit par mail à l'atelierpopulaire@orange.fr
ouais.
Ou par téléphone auprès de toi.
Oui.
06 75 49 54 01.
Ouais.
Voilà. Et après, il y a toutes les infos donc, sur ton site atelier-populaire.fr.
Ouais, c'est ça.
Je mettrai tous les liens sur la page de l'émission. Et je voulais juste revenir sur quelque chose que tu as dit, parce que donc, tout à l'heure, quand tu parlais de ton parcours, tu disais quand tu étais spectatrice des conférences gesticulées que tu étais une alliée politique de tout ce que tu entendais et que l'encrier, c'était aussi un espace politique où c'était confortable de faire les conférences gesticulées et que là, le VVF, c'est peut-être un peu plus intimidant. Mais est-ce que c'est pas aussi intéressant d'aller là-bas peut-être pour que ça s'ouvre à des gens qui sont pas nécessairement déjà alliés de ces conférences gesticulées et de toucher des personnes qui peut-être connaissent pas ou n'auraient pas osé venir si c'était dans des lieux déjà trop marqués peut-être.
Ouais. Bah oui, c'est aussi ce que je me dis. Après, c'est l'un et l'autre en fait. On teste, on verra bien ce que ça donne quoi. Ce qu'on s'était dit aussi, c'est que vu que c'était quand même décalé un peu du centre-bourg, puisqu'on parle comme ça maintenant, c'est que peut-être ça allait empêcher des gens de venir alors que y a des personnes, elles viennent aussi parce que c'est à côté, des personnes un peu âgées. Du coup, on s'est dit que peut-être on allait proposer un système de navette. Enfin, on va essayer de voir comment c'est facile pour tout le monde. Mais effectivement, je pense que tu as raison sur le fait que ça peut aussi inciter des gens à pousser la porte qui ne seraient pas venus dans un lieu plus marqué, quoi. Mmh. Mais ouais. Et puis, le VVF est ouvert. Ça veut dire qu'il y a déjà des vacanciers et des saisonniers. Et moi, je me dis, ça, c'est super aussi parce que ça permet à des gens qui vraiment jamais n'auraient n'aurait pas passé la porte d'être là, quoi. Donc on verra.
Oui.
On verra. Merci beaucoup.
Bah, avec plaisir.
D'être venu nous présenter tout ça. Et donc on donne rendez-vous à tout le monde du 27 avril au 3 mai pour la 5e édition du Gestival.
Ouais.
Et avant de se quitter, Stéphanie, est-ce que tu aurais un morceau de musique, une chanson, quelque chose qu'on pourrait écouter pour terminer cet entretien ?
Bah oui, on pourrait peut-être écouter un truc qui est à la fois une parole de femme et une parole de lutte. Moi, j'aime bien La danse des bombes de Louise Michel. Enfin, de Louise Michel, un texte de Louise Michel qui a été mis en musique d'abord par Michel Bernard. Alors, peut-être par d'autres avant, mais j'ai pas tout l'historique. Voilà.
La danse des bombes, tout de suite sur Radio Barthès.
Dans l'air, ami, ami, dansons.
La danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous. Amis, chantons, amis, dansons. La danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous. Amis, chantons.
La grandeur de la poudre qui se mêle à l'encens, ma voix frappant la voûte et l'orgue qui perce ses dents.
La danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous. Amis, chantons, amis, dansons. La danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous. Amis, chantons.
La nuit est écarlate, trempez y vos drapeaux. Aux enfants de Montmartre, la victoire ou le tombeau. Aux enfants de Montmartre, la victoire ou le tombeau.
Le tonnerre de la bataille gronde sur nous. Amis, chantons, amis, dansons. La danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous. Amis, chantons. Oui, mon cœur, je le jette à la révolution.
Et des poussières.
Midi et des poussières. Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Et oui, il est toujours midi et des poussières sur Radio Barthas. Merci d'être à l'écoute sur le 107 de la bande FM ou sur radiobarthas.net. Et cette semaine, exceptionnellement, il n'y aura pas de midi et des poussières, ni demain mercredi, ni jeudi. Et c'est donc ce mardi que vous est proposée la chronique Parlons Ciné avec Cinéco.
Parlons ciné
avec Cinéco,
la rubrique cinéma de Cinéco,
l'association de cinéma itinérant en Cévennes, sur Radio Barthas.
Et aujourd'hui, c'est toi, David, qui est là pour la chronique Parlons Ciné avec Cinéco. Bonjour.
Bonjour, Raphaël.
Alors, de quel film tu vas nous parler aujourd'hui ?
Alors, je vais vous parler d'un film qui s'appelle L'Agent Secret. Mais avant, si tu es d'accord, je vais faire un petit pas de côté. Parce qu'en fait, ce film a été en compétition au Festival de Cannes.
En 2025.
En 2025, bien entendu. Et je discutais avec une copine cinéphile qui me disait qu'elle était allée au festival et pour elle, c'était son préféré de toute la sélection, jusqu'à ce qu'elle voit un autre film qui s'appelle Résurrection, d'un cinéaste chinois qui s'appelle Big Han. Et je voulais vous dire quelques mots de ce cinéaste pour les plus cinéphiles, dont les films ne sont malheureusement pas passés à Cinéco, et notamment le dernier, donc Résurrection, n'est pas passé non plus, mais je voulais faire un petit focus sur ce réalisateur qui a aujourd'hui 36 ans, qui habite dans la ville de Kaili, c'est dans la province de Guizhou, au plein centre de la Chine, dans ce grand pays qu'est la Chine, et il a réalisé un premier long métrage il y a 10 ans, en 2016, à l'âge de 26 ans donc, et qui s'appelait Kylie Blues. Il avait l'équivalent de 3 000 euros en poche, donc c'est un film à tout petit budget. Mais au-delà de cette contrainte-là, il a réussi à faire un film très poétique, très beau, qui se passe, c'est très vert, il y a vraiment de la présence de l'eau. Et moi, ça m'a vraiment impressionné, puisque d'un point de vue narratif, on n'arrivait pas à tout à suivre. C'était comme ça plongeait le spectateur dans un rêve. Et ce film-là a été reconnu. Il a eu plusieurs prix dans différents festivals. Et il a sorti un deuxième long métrage, 2019, qui pour moi place la barre encore plus haut, qui s'appelle Un grand voyage vers la nuit, avec toujours des héros qui se dans sa ville originale de Kaili, et avec un plan séquence final complètement magistral. Donc un plan séquence, juste pour rappeler, c'est vous lancez la caméra et elle tourne en continu sans jamais qu'il y ait de coupure. Et le plan séquence final de ce film-là durait 40 minutes. Et Un long voyage vers la nuit, le début du plan séquence, je ne vais pas raconter tout le film, mais le début du plan séquence, vous avez un personnage qui est sur une espèce de tyrolienne au-dessus de la ville, qui descend doucement, tout ça va très vite, comme une espèce de descente aux enfers. Et là, vous avez une atmosphère nocturne. Enfin voilà, c'est vraiment très 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 beau. Résurrection, qui est sorti donc en 2025, qui est en compétition au Festival de Cannes, et a priori ce film-là est vraiment réussi dans un domaine de la science-fiction et beaucoup, beaucoup, beaucoup de rêves. Voilà. Donc ce film-là, je ne l'ai pas vu, c'est pour ça que je voulais vous en parler avant L'Agent Secret qui
lui sera diffusé par Cinéco.
Qui sera bien diffusé par Cinéco, tout à fait. Donc L'Agent Secret, pour y revenir, c'est un film du Brésilien Kleber Mendonça Filho, je m'excuse pour la prononciation, avec dans le rôle titre Wagner Moura, qui a joué Pablo Escobar dans la série Narcos, pour ceux qui l'ont vu. Alors, dans ce film, ça situe l'action au Brésil en 1977, donc pendant la période de la dictature. Et Marcelo, c'est un homme d'une quarantaine d'années et qui fuit son passé trouble et vient retrouver son jeune fils. Il espère reconstruire une nouvelle vie. Alors, malheureusement, c'est sans compter les menaces de mort qui planent au-dessus de sa tête. Et plus le film avançait, plus vous allez comprendre qu'est-ce qui s'était passé avant, et c'est tout simplement une des forces du film, parce que voilà, pourquoi est-ce que je lui donnerais un premier prix. Pour moi, c'est du grand et du vrai cinéma en termes de scénario, d'écriture. C'est un petit peu complexe, faut un peu s'accrocher pour bien comprendre, mais plus ça va, plus c'est passionnant. Et vous voyez vraiment que les histoires, toutes les personnages ont une relation les uns les autres, toute la pelote se démêle au fur et à mesure que le film avance, et c'est vraiment vraiment très très bien fait. On est en 77, on est dans les couleurs pop, les voitures, l'affiche que je trouve très très belle dans une cabine téléphonique en demi-sphère, toutes les couleurs sont bien acidulées. Des couleurs chaudes, et en termes de, je disais, en scénario et en termes de mise en scène, c'est vraiment très 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 impressionnant. Ce réalisateur, on l'avait déjà remarqué sur ses précédents films. Alors moi, il n'y en a qu'un seul que j'ai vu, c'est Les Bruits de Récif en 2012, où il racontait encore. Alors, petit point commun aussi avec Bigan, c'est que là aussi, c'est un réalisateur qui est attaché à sa ville, donc Récif. Au Brésil. Et un autre petit clin d'œil, si tu me le permets, je vais faire un petit clin d'œil au Festival de cinéma des Trois Continents à Nantes, où je vais depuis de nombreuses années, et c'est là-bas que je découvre de nombreux films. Et en tout cas, voilà, premier film de Bigan, je vous ai parlé tout à l'heure, Kaili, a eu le premier prix donc en 2015, et Les Bruits de Recife fait dans ce même festival en 2012. La reconnaissance de Kleber Mendonça Filho, elle est venue surtout avec deux films qui s'appelaient Aquarius en 2016 et Bacurau, en 2019. Donc là, aujourd'hui, c'est son quatrième film de fiction, et qui est vraiment très riche, très très beau visuellement, comme je le disais. Et c'est à la fois un thriller, à la fois un film politique sur la mémoire. C'est drôle, c'est aussi un polar. Enfin, voilà, d'une très très belle richesse et qui vous emporte.
Merci beaucoup, David, pour cette chronique. Thank you.
si bonne façon et bon camarade à sa portier. C'est sympa de voir tes gestes, tes costauds, tout bon bouquet d'en fait. C'est sympa de jouer à Jimmy, mon verre d'Igoué à Cinderella. Abriu do frio, do frio de batata. Abriu do frio, do frio de batata. Sabe por quê? Samba do Guatége é gostoso, bom, porque não vê. Samba jogadinho, moderninho, é assim, pela. Abriu do frio, do frio me batá. Abriu do frio, do frio me batá. Gente que se manca, não tem banca pra dançar, por quê? Samba do Guatége é gostoso, bom, porque não vê. Samba jogadinho, moderninho. É assim, vê lá, abriu do frio, do frio de fatá. Abriu do frio, do frio de fatá.
Écoutez à l'instant Samba no Arpeggio du musicien brésilien Valdir Calmon, morceau qui ouvre la bande originale du film L'Agent Secret de Kleber Mendoza Filho, à découvrir donc sur les écrans de Cinéco à partir de ce samedi 25 avril à 21h à Saint-Martin-de-Lensuscle. Ensuite, il y aura une séance le vendredi 1er mai à 21h à Ispagnac, une séance le dimanche 3 mai à 21h également à Saint-Étienne-Vallée-Française, à Florac, mercredi 6 mai, toujours à 21h, et à Saint-Enimi, le jeudi 7 à 20h. Vous pouvez retrouver toutes les horaires des séances sur le site de Cinéco et sur la page de l'émission Midi et des Poussières du jour sur le site de Radio Bartas. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine sur Radio Bartas et je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Salut!
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
Midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.